Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, nous sommes aujourd'hui au cinquième dimanche du Grand Carême et pour cette dernière émission avant la fête de Pâques, nous recevons l'archevêque Job de Telmessos, doyen de l'Institut d'études supérieures en théologie orthodoxe de Chambézy, en Suisse, et professeur de dogmatique et de liturgique. Le thème de cette émission sera le cheminement vers Pâques que l'Église a construit au fil de son histoire pour préparer les fidèles à cette fête qui constitue bien sûr le sommet de l'année liturgique. Monseigneur, bonjour. Quelle est donc Alexis. L'organisation de cette période préparatoire dans la tradition de l'Église orthodoxe?
Eh bien, cette période pré-pascale dans l'Église orthodoxe est associée tout d'abord avec un livre liturgique qu'on appelle le triode tout court, le triode de carême, qui est un livre d'hymnographie, un livre contenant aussi des lectures bibliques, un livre qui, à la base, est un livre d'origine palestinienne. L'hymnographie, la première strate hymnographique est une hymnographie sabaïde du monastère de Saint-Sabas près de Jérusalem et qui a été ultérieurement complétée par de l'hymnographie constantinopolitaine au monastère du Studion. Donc on voit un mélange de traditions hiérosolymitaines et constantinopolitaines. Tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est divisé en trois grandes parties, une période préparatoire de 3 semaines, avant le début à proprement parler du carême, suivie de 6 semaines du carême, et puis de la grande semaine. La grande semaine n'entre pas dans le calcul des 6 semaines de carême. Donc on a un total, si vous voulez, de 10 semaines. Tel que nous le connaissons, donc il y a 4 dimanches préalables, le dimanche du publicain et du pharisien, le dimanche du fils prodigue, le dimanche de l'apocréo du carnaval, et puis le dimanche de l'étage ou de la thyrophagie. Voilà les 3 semaines qui sont encerclées par 4 dimanches qui nous préparent à entrer en carême. Et puis il y a une série de 6 dimanches qui conclut chacun une semaine de carême, le premier étant consacré au dimanche de l'orthodoxie, le deuxième à la mémoire de Saint Grégoire Palamas, le troisième à la vénération de la croix, le quatrième à Saint Jean Climac, le cinquième à Sainte Marie l'Égyptienne, et puis le sixième, qui déjà n'est plus à proprement parler dans le carême, c'est le dimanche des Rameaux, qui entame la semaine sainte qui nous mène vers Pâques.
Et qui constitue une particularité, parce que c'est une fête. Hein,
c'est une fête, une des 12 grandes fêtes de l'année liturgique.
Tout à fait. Alors un mot, c'est une question technique, triode, ça veut dire 3 odes. Hein.
3 odes, tout à fait, parce que comme je le rappelais tout à l'heure, le triode de carême est avant tout un livre liturgique qui contient de l'hymnographie, et une des particularités pendant cette période, c'est que au matin, à l'office du matin, le canon hymnographique, qui est le cœur de l'office des matines, est composé de 3 odes bibliques. Et donc nous avons l'hymnographie qui doit accompagner ces 3 odes bibliques, d'où le terme triode. Les triodes sont, on pense, l'état primaire du canon hymnographique qui ensuite s'est développé avec des canons constitués de 9 odes bibliques. Mais la particularité du carême, c'est qu'on a conservé une structure archaïque. Ça, c'est une, on peut dire, une règle de la liturgie, c'est que les offices qui reviennent le moins souvent dans l'année conservent une structure archaïque.
Ça, c'est la première chose. Et puis, pour dire aussi que le canon tel qu'on le connaît, le canon à 9 odes, on n'en chante que 8 d'habitude.
Hein. Tout à fait, parce que la deuxième est absente. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire, dans le détail du canon hymnographique, mais à l'origine, on chantait les odes bibliques, puisque dans le psautier liturgique, nous avons 9 odes bibliques, 8 sont tirées de l'Ancien Testament, la 9e du Nouveau Testament étant le Magnificat et le Cantique de Zacharie. À l'origine, on chantait seulement 3 parmi ces 9 odes. Et puis, petit à petit, on a commencé à agrémenter ces odes bibliques de strophes hymnographiques, de strophes poétiques. Et puis finalement, ce sont l'hymnographie qui a pris le dessus. On a laissé tomber les autres bibliques à proprement parler pour ne chanter finalement que l'hymnographie. Et c'est là où on a développé l'hymnographie sur une structure à 9 odes.
Donc, période du triode, nous chantons des odes, des canons, pardon, à 3 odes. Et maintenant, vous êtes liturgiste, je rappelle que vous avez fait un livre qui est très utile pour qui veut comprendre un peu comment cela fonctionne dans la tradition de l'Église orthodoxe, qui est la tradition byzantine. Ce livre s'appelle le Typikon décrypté, et on en reparle à la fin de l'émission. Il y aura bien sûr ces éléments également sur le site de l'émission, mais là, tout de suite, si vous voulez bien parler de cette période préparatoire, donc avant le carême, avec cette succession de dimanches que vous avez donné tout à l'heure, c'est-à-dire publicain, pharisien, fils prodigue, le carnaval, le jour où on arrête la viande, en fait, c'est ce que ça veut dire.
Fait.
Puis la tyrophagie dès l'étage, on le mange jour, encore, quoi. Dernier jour où on mange
encore dès l'étage.
Voilà, c'est ça. Donc on voit que c'est très technique, c'est le carême, le jeûne est construit là-dessus. Très important de se souvenir du fait que les règles du jeûne sont construites sur la liturgie.
Absolument.
Tout à fait. Alors, comment cela fonctionne? Et puisque vous avez parlé de Jérusalem et de Constantinople, le parallèle, est-ce qu'on trouve
Alors,
les deux?
Alors, il y a eu une évolution. Déjà, cette structure tripartite, une période où on se prépare à entrer en carême, puis la période du carême, puis la grande semaine, c'est déjà la structure que nous donne dans son traité du jeûne Saint Jean Damascène au 8e siècle. Mais pour lui, la période préparatoire, avant d'entrer en carême, n'est qu'une période d'une semaine. Donc, Saint Jean Damascène, lui, connaît au total 8 semaines. Une semaine préalable, 6 semaines de jeûne, plus la semaine du grand carême. 8 semaines. Alors, si on fait l'histoire du carême en Orient, on voit, d'après les différentes sources, entre le 4e et le 8e siècle, on voit qu'il y a des fluctuations. Certains disent que le carême dure 8 semaines, tout simplement parce qu'on calcule 8 semaines fois 5 jours, puisqu'on ne jeûne pas à l'origine le samedi et le dimanche. Donc 8 fois 5, ça fait 40 jours, ce qui incluait dans ce calcul la semaine sainte. D'autres ensuite parlent d'un carême de 7 semaines, puisque 7 fois 7 donne plus ou moins 40 et quelques jours. Et puis, voilà, il y a eu aussi le problème, après le concile de Chalcédoine, la division entre chalcédoniens et non-chalcédoniens, il fallait se démarquer des non-chalcédoniens. Donc, on a institué la semaine des laitages, qui est une semaine préalable, qui est pas tout à fait encore une semaine de jeûne, mais une semaine où on commence à jeûner quand même. On se prépare à jeûner. Voilà, donc il y a eu cette évolution. Et puis, petit à petit, on commence à ajouter des semaines préalables. Mais en fait, ce qu'il y a eu en plus, c'est qu'on a connu à Constantinople une révision du lectionnaire au 8e siècle, pendant la crise iconoclaste, où on a changé un peu la thématique. Donc, si on suit l'ancien lectionnaire de Jérusalem, alors on a des témoignages, on n'a pas les sources grecques de l'ancienne liturgie de Jérusalem, mais l'ancienne liturgie de Jérusalem nous est connue grâce à des traductions arméniennes et géorgiennes. Donc on a un ancien lectionnaire de Jérusalem en arménien qui date du début du 5e siècle, et puis on a un ancien lectionnaire de Jérusalem en géorgien, où il y a plusieurs strates entre le 5e et le 8e siècle. Et puis aussi, on a de vieux triodes, d'anciens triodes de langue grecque plus tardifs, où on a encore la trace de l'ancienne structure du carême, d'après, en suivant le lectionnaire de Jérusalem. Alors, cette ancienne structure commençait par le premier dimanche du carême, qui était consacré non pas au dimanche de l'orthodoxie, mais au saint prophète, suivi du dimanche du fils prodigue, suivi du dimanche du publicain et du pharisien, suivi du dimanche du bon samaritain, suivi du dimanche du riche et de Lazare. Donc on reconnaît ici des paraboles qui étaient les paraboles choisies pour le carême d'après le lectionnaire de Jérusalem.
Et qui ont fini par se retrouver dans cette période préparatoire. Donc.
Alors, on a chamboulé toute cette organisation. Alors le publicain et le pharisien, de même que le fils prodigue, se sont retrouvés, on les a ajoutés à la période préparatoire. Donc aujourd'hui, dans notre pratique contemporaine, le triode s'ouvre par le dimanche du publicain, du pharisien, puis il est suivi du dimanche du fils prodigue, puis du carnaval, puis de la thyrophagie, hein, de l'étage. Et puis on a changé toutes les thématiques pour les dimanches du carême, pour des raisons historiques. On pourra y revenir dans un instant.
Je voudrais ici juste un mot sur la liturgie des présanctifiés, qui est un office qui n'est chanté, en fait, qui n'est célébré à l'Église que pendant cette période de carême. Juste un mot pour dire ce que c'est, parce qu'on va en entendre.
Alors, la liturgie, ce qu'on appelle la liturgie des présanctifiés, en fait, n'est pas une liturgie à proprement parler. Pourquoi n'est pas une liturgie à proprement, une divine liturgie à proprement parler? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de prière eucharistique. Il n'y a pas de consécration. Il n'y a pas d'anaphore. Il n'y a pas d'épiclèse. On n'offre pas le pain et le vin. La liturgie des présanctifiés est en fait un office de communion à des dons présanctifiés. C'est-à-dire qu'on a consacré l'Eucharistie le dimanche précédent. Et l'on reçoit la communion, durant cet office, qui commence par l'office des vêpres. Pourquoi il est célébré durant la période du carême? C'est que durant la période du carême, à l'exception des samedis et des dimanches, nous avons des journées aliturgiques. Ce sont des jours de jeûne strict où la célébration de l'Eucharistie est incompatible avec l'intensité, le sérieux du jeûne. Et c'est la raison pour laquelle on ne célèbre jamais la divine liturgie durant le carême, à l'exception du samedi et du dimanche, et de la fête de l'Annonciation.
Mais donc, pour permettre aux fidèles de communier pendant la semaine, voilà. Il y a cet office.
Il y a cet office qui est célébré le mercredi et le vendredi, dans la pratique actuelle. Et c'est un office qui commence par les vêpres, parce que, selon la pensée, selon la logique liturgique, nous étions censés jeûner toute la journée, ne rien manger jusqu'à la 9e heure du jour, c'est-à-dire jusqu'à 15 heures de l'après-midi, et alors, après la célébration des vêpres, on recevait la communion. Voilà ce qui est à l'origine, ce qui a donné lieu à cette liturgie des présanctifiés.
Et un office qui est attribué au pape, hein, Grégoire.
Alors, il y a cette attribution qui est une fausse attribution à cause d'une mauvaise interprétation, une mauvaise lecture de la vie du pape Grégoire le Dialogue ou Grégoire le Grand. Donc, c'est par erreur que dans certains manuscrits, on a attribué cette liturgie à Grégoire le Dialogue. En fait, l'origine de la liturgie des présanctifiés est probablement Hiérosolymitaine de Jérusalem.
Très bien, donc une pause pour entrer dans l'église et entendre un extrait de cette liturgie des présanctifiés par le chœur de la cathédrale Saint-Sava de Belgrade.
Thank you.
Un extrait donc de la liturgie des présanctifiés par le chœur de la cathédrale Saint-Sava de Belgrade. Nous revenons à notre entretien avec Mgr Job, archevêque de Telmessos, sur la structure liturgique du Grand Carême, son évolution dans le temps et évidemment le sens spirituel de tout ça, parce qu'il y a le côté technique, mais derrière l'Église enseigne à travers tout ça.
Absolument.
Alors, on va prendre maintenant le Grand Carême à proprement dit.
Voilà, alors... Comme je vous l'expliquais, donc le lectionnaire Hierosolymita avait choisi des thèmes liés plus ou moins à la pénitence et à la miséricorde, hein, donc tous ces thèmes des paraboles évangéliques. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, au 8e siècle, il y a eu cette restructuration du lectionnaire à Constantinople durant la crise iconoclaste, qui a ensuite entraîné une réorganisation des thèmes. Hein. Alors, évidemment, le grand événement au 9e siècle, ça a été la victoire finale sur l'iconoclasme. L'iconoclasme a vraiment été quelque chose qui a profondément troublé, marqué et imprégné Byzance. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire de l'iconoclasme. Et vous comprenez bien que en 843, le jour du triomphe de l'orthodoxie, on instaure une fête annuelle, le premier dimanche du carême, consacrée à la victoire sur l'iconoclasme, dimanche de l'orthodoxie. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui. D'abord, cette fête va se greffer à la mémoire des saints prophètes, et puis les prophètes vont tout doucement disparaître, même s'il reste quelques traces dans le trio, dans certains hymnes, mais d'une manière générale, le premier dimanche du carême tel qu'on le connaît aujourd'hui est consacré uniquement à la victoire sur l'iconoclasme. Le deuxième dimanche est consacré à Grégoire Palamas, qui est un saint du 14e siècle. Donc il est évident qu'il n'y avait pas de dimanche de Saint Grégoire Palamas avant le 14e siècle. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles on consacre cette mémoire au deuxième dimanche du carême. Tout d'abord, au 14e siècle, il y a eu de nouveau un grand conflit autour de l'hésychasme, c'est connu comme la crise hésychaste, sur la grande question est-ce que l'homme peut ou ne peut pas connaître Dieu à travers la prière. Donc c'est un thème profondément spirituel et profondément lié aussi à l'ascèse du carême. Et donc, suite au concile des Blachernes de 1351 qui a donné raison au moine hésychaste et à l'enseignement de Saint Grégoire Palamas. Saint Grégoire Palamas est subitement canonisé peu de temps après sa mort et on institue sa fête au deuxième dimanche du carême. Alors il y a un lien entre le deuxième et le premier dimanche du carême. Vous voyez, le Saint Grégoire Palamas au XIVe siècle apparaît comme le nouveau docteur de l'orthodoxie. Ses thèses sur la connaissance de Dieu, sur la vision de Dieu, etc., sont rajoutées au synodicon de l'orthodoxie du IXe siècle. Donc, on peut dire qu'il y a une mise à jour du synodicon au XIVe siècle, incluant les thèses palamites. Et donc, il est tout à fait logique que sa mémoire fasse suite à la mémoire de l'orthodoxie au premier dimanche du carême. Le troisième dimanche du carême est consacré à la vénération de la croix. Alors, d'une part, c'est la mi-carême qui tombe quelque part au milieu le mercredi de la quatrième semaine du jeûne, mais aussi cela témoigne d'une évolution dans la pratique baptismale. Il faut se rappeler que dans l'Église ancienne, le baptême était une célébration à l'origine annuelle, qui avait lieu pendant la vigile pascale, la veille de Pâques, et que les catéchumènes étaient instruits durant toute la période du carême. Mais à l'origine, les catéchumènes étaient des adultes, donc ils avaient droit à une longue préparation. Mais plus l'empire byzantin va être christianisé, on aura de moins en moins de baptêmes d'adultes, et donc on va avoir des baptêmes d'enfants. Et donc, on va petit à petit avancer l'âge du baptême, pas encore à l'âge des nourrissons tels que nous le connaissons aujourd'hui, mais c'était des jeunes enfants, et donc on va réduire la période du catéchuménat, et donc le catéchuménat commencera proprement parler après le troisième dimanche, d'où le dimanche de la croix marque ce début du catéchuménat. Et puis on ajoute deux autres dimanches, Saint Jean Climaque, qui est l'igoumène du Sinaï, auteur de l'échelle spirituelle, et Sainte Marie l'Égyptienne, une ascète qui est un modèle de repentance. Ces deux mémoires vont être ajoutées par les hésychastes au XIVe siècle, puisque d'une part le docteur de l'ascèse et le modèle de la repentance, Sainte Marie, seront mis en honneur comme modèle pour nous chrétiens durant la période du jeûne. C'est pourquoi on retrouve leur mémoire au quatrième et cinquième dimanche du carême.
Donc, nous sommes aujourd'hui au dimanche de Marie l'Égyptienne, samedi prochain, dimanche de Lazare, dimanche prochain, les rameaux, puis la semaine sainte, juste un mot sur les thèmes, évidemment, lundi, Joseph.
Alors, la semaine sainte est consacrée donc à la semaine de la Passion. Hein. Donc, l'entrée, samedi de Lazare, c'est une annonce de la résurrection, l'entrée à Jérusalem, dimanche des rameaux, c'est l'entrée pour la Passion, et puis on a les trois premiers jours, les offices de l'époux, hein, donc le Christ époux de l'Église qui vient sauver l'humanité. Le jeudi saint, commémoration de la scène mystique, du dernier repas du Christ, institution de l'Eucharistie. Le jeudi soir, les 12 évangiles, qui est la vigile de la Passion du Christ.
En fait, c'est ça, c'est les matines du vendredi,
qui était à l'origine à Jérusalem une célébration nocturne où on revivait la Passion du Christ sur les différents lieux en lisant les différents passages de la Passion. Le vendredi, la mise au tombeau. Avec l'office de l'ensevelissement, les vêpes de l'épitaphe, on est les matines du grand samedi de l'ensevelissement. Et puis le samedi, le repos au tombeau du Christ est déjà annonce de la résurrection, de la descente aux enfers. Voilà, donc la semaine sainte est vraiment la semaine de la Passion, la semaine qui nous amène vers la résurrection du Christ.
Qui sera dans 15 jours et nous allons nous retrouver donc pour une explication après du Pentecostaire, c'est-à-dire de la liturgie qui suit immédiatement au Pâques. Monseigneur Job, merci beaucoup. Je rappelle votre livre « Le Typicon décrypté » paru en 2009 aux éditions du CERF. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Jordan Fuentes. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.